Nous restons dans notre étude de l'Épître aux Corinthiens et nous sommes parvenus au chapitre 15. La dernière prédication a permis d'apporter suffisamment d'éléments de clarté concernant l'usage des dons dans l'Église, du don de langue en particulier. Et pour ceux que cela intéresse, je vous encourage vraiment à réécouter non seulement la prédication de dimanche dernier, mais la prédication du dimanche d'avant. C'est des prédications riches d'enseignements pour nous. Alors l'apôtre Paul clôture ce chapitre 14 par cette exhortation. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul met un zoom particulier sur la question de la prophétie. Et en regardant, on constate bien qu'il commence ce chapitre 14 avec la question de la prophétie. Et il écrit au verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Le verbe « édifier » signifie « construire ». Le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, l'Église est considérée comme un édifice. Pour construire, pour édifier, il faut des bases, il faut une fondation. Et puisque l'apôtre termine son propos au chapitre 14 par cette invitation à la prophétie, il commence le cinquième dans l'enseignement, il retourne à la doctrine. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Avant cela, je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui sait tout, qui connaît nos cœurs, qui sait ce dont nous avons besoin, à quel moment, qui sait comment nous parler. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu as à nous dire encore ce matin. Révèle-toi pour nous enseigner, nous édifier, nous permettre de tenir debout lorsque les vents sont contraires, gardant ton enseignement fidèle. Pour la gloire de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je voudrais rappeler le contexte de l'époque. Dans cette église de Corinthe, il y a des débats philosophiques qui foisonnent de part et d'autre, et il y en a un en particulier qui concerne la résurrection. Certains disent qu'il n'y a pas de résurrection, et l'église enseigne qu'il y a une résurrection. Et comme la société est ce qu'elle est, l'Église, elle est constituée des gens qui vivent dans cette société et donc influencée d'une façon ou d'une autre par ce qui se dit dans cette société. Qui croire? Que croire? Et l'enseignement de l'apôtre Paul répond à cette question. Et je vous propose maintenant de lire. Nous lirons les versets 1 à 28, mais nous lirons de manière séquencée. Donc, nous commencerons par lire le verset 1 à 11. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. J'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, Après tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà ce que vous avez cru. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens leur foi qui est ferme. Elle est fondée sur l'Évangile. L'Évangile qu'il leur a annoncé. Et dans la description qu'il a faite, il introduit le « si ». Si vous gardez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Paul n'est pas en train de dire qu'il est possible de perdre le salut. Et pour cela, je voudrais que nous puissions nous souvenir de l'échange entre Jésus et certains Juifs. Ces Juifs se disaient descendants d'Abraham. Et parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils estimaient que ils étaient dans cette alliance avec l'Éternel. Et Jésus, qui connaît les cœurs, les convainc en leur disant qu'ils ne sont pas d'Abraham. Leur père est le diable. Et avant cet épisode, dans le même évangile, selon Jean, de nombreux disciples vont quitter Jésus. Et Jésus leur déclare, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Nous sommes au chapitre 6, verset 66 de l'Évangile de Jean. La présence, être présent dans l'équipe qui accompagne Jésus, ne veut pas dire que vous appartenez à Christ. Être présent dans cette salle ne veut pas dire nécessairement que vous êtes au Seigneur. Beaucoup se sont parfois trompés en croyant que parce qu'on est descendant d'Abraham, parce qu'on est fils d'eux, parce qu'on va à l'Église, on appartient au Seigneur. L'apôtre Paul interpelle les Corinthiens pour qu'ils saisissent bien de quoi il est question. Il est question d'être habité de la présence du Seigneur. Et il y a aussi cette parabole du semeur dans Matthieu 13, au verset 1 à 23, qui met en lumière les différents types de croyants qu'on a dans une assemblée ou qu'on peut avoir dans une assemblée. Il y en a qui entendent l'Évangile et qui ne le comprennent pas. Ils sont dépouillés tout de suite. Ils l'ont entendu, mais c'est entré et puis c'est passé. Il y en a qui reçoivent la parole sur un sol pierreux. C'est ceux-là qui acceptent l'Évangile tout de suite, mais qui l'abandonnent dès qu'il y a les premières difficultés. Il y a ceux qui reçoivent l'Évangile dans des ronces et qui se laissent submerger par les soucis de la vie et l'attrait des biens matériels, de la richesse. La parole qu'ils ont reçue est étouffée. Et il y en a qui la reçoivent sur la bonne terre. Et ceux-là, ils portent du fruit. Donc, lorsque l'apôtre Paul parle du fait d'avoir retenu l'Évangile dans le sens dans lequel il l'a annoncé, il est en train de dire que cet Évangile rentre en nous par la présence de l'Esprit-Saint qui nous transforme et qui nous donne de porter du fruit. Si vous portez du fruit, si cet évangile est manifeste en vous, alors là, oui, vous êtes de ceux qui appartiennent au Seigneur. La foi qui sauve est donc celle qui est initiée par l'Éternel lui-même. Il l'entretient, il la nourrit et elle est visible de ceux qui sont autour de nous. Paul rappelle que l'enseignement qui fonde la foi des Corinthiens est celui de tout chrétien, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Tout ceci conformément aux Écritures. Autrement dit, l'Écriture est le premier témoin. Nous sommes dans une société qui aime la démonstration, qui cherche des preuves, qui réclame des preuves. La première preuve, et ce n'est pas nouveau, nous voyons que déjà à Corinthe, il fallait apporter quelque chose qui donne du contenu et qui permette aux chrétiens de tenir debout. Et la première preuve, c'est l'Écriture. Le premier témoin, c'est l'Écriture. Comment est-ce que l'Écriture est-elle un témoin fiable? Souvenons-nous de ces disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, qui revenaient de Jérusalem et qui se disaient l'un à l'autre au sujet de Jésus, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et pendant qu'ils marchaient, il y a quelqu'un qui s'est joint à eux. Ils n'ont pas fait attention, ils ont continué leur route. Et pendant qu'ils parlaient ainsi, cette troisième personne les interpelle et leur dit, « Homme sans intelligence dans le cœur et lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les récits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. À la Pentecôte, l'apôtre Pierre prêche sur le psaume 16. Et là, nous sommes en Actes, au chapitre 2, les versets 25 à 31. Et Pierre apporte la démonstration de la résurrection de Christ, prophétisée par David, le roi. Donc, premier témoin, la parole, les Écritures. Deuxième témoin, des témoins oculaires. Et comme témoin oculaire, nous avons déjà ces disciples d'Emmaüs. Ils marchent avec Jésus. Ils l'ont vu. Et lorsqu'ils ont compris qui était Christ, quelle a été la réaction? Le texte nous dit, nous sommes en Luc 24, verset 33, « Ils se levèrent, et ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Nous sommes déjà dans la nuit. Et ses disciples avaient demandé à cette personne qui les accompagnait de rester. Et Jésus n'est pas resté. Et pourtant, elles sont parties de là, dans la nuit, poussées par la puissance de ce message, à aller dire aux autres que le Seigneur est ressuscité. Et quand ils arrivent, ils n'apportent pas la nouvelle, ils reçoivent plutôt l'information qui leur dit « Le Seigneur est ressuscité ». Paul n'a pas été de ces premiers moments, de ses proches qui ont vu le Christ à ce moment-là, mais il a aussi bénéficié de l'apparition de Christ, ce qui est d'ailleurs une des exigences pour être apôtre. Et dans son témoignage, l'apôtre Paul n'oublie pas de signaler son arrivée tardive dans ce groupe restreint. De même, il n'hésite pas à mentionner son passé de persécuteur de l'Église de Christ. Malgré cela, la grâce de l'Éternel s'est saisie de lui. Elle a fait de lui l'apôtre que nous connaissons. Et nous pouvons apprécier la bibliographie testamentaire. Quelle grâce! Cela devrait nous encourager. Paul nous encourage en apportant ce témoignage. Il peut arriver que parfois on se dise « J'ai tellement péché, j'ai tellement fait des choses atroces, des choses ignobles, que le Seigneur ne pourrait pas me recevoir. » Mais non, le Seigneur vous accueille. Paul, persécuteur de l'Église, le Seigneur en a fait un apôtre puissant qui nous enseigne encore aujourd'hui. Troisième preuve, la concordance des témoins. L'apôtre Paul ne se pose pas en détenteur unique de la vérité. Dans le domaine des sciences, lorsque vous émettez des hypothèses, il est bon, il est préférable pour vous qu'il y ait plusieurs collaborateurs qui disent la même chose. Sinon, on risque de vous considérer comme un fou. Et Paul fait appel aux autres prédicateurs qui disent la même chose que lui, au sujet ne serait-ce que de la résurrection. Nous avons le privilège du temps écoulé pour affirmer avec foi ces paroles de l'apôtre Paul. 2000 ans d'histoire auraient déjà dû nous convaincre de nous détourner du Seigneur. Mais cela ne se passe pas ainsi. Nous voyons dans de nombreux pays des hommes et des femmes qui se donnent au Seigneur. Après cette brillante démonstration, l'apôtre Paul propose une réflexion profonde au sujet de l'absence de résurrection. Il va un cran plus loin. Il a montré que la résurrection est une réalité, il en a donné les preuves. Maintenant, il dit, gardons l'hypothèse qu'il n'y ait pas de résurrection. Que se passerait-il? Je l'ai dit en l'entame, les Grecs ne croient pas à la résurrection. Ils pensent qu'après la mort, l'esprit est libéré et il rentre dans l'éternité, sans précision quelconque. Et donc l'apôtre garde cette thèse-là, cette hypothèse. Si il n'y a pas de résurrection, la bonne nouvelle qui consisterait en la mort et à la résurrection de Christ n'est plus une bonne nouvelle. Si la résurrection est enlevée, finie la bonne nouvelle. Il n'y a plus de victoire. La victoire sur la mort n'existe plus. Et si elle n'existe plus, quelle est la raison pour laquelle on serait là? Que vaudrait notre foi en un homme pareil? Il n'aurait pas été capable de nous libérer de la mort acquise en Éden. Pourquoi croire en lui? Ce serait une foi stérile. Imaginez tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin avec le Seigneur, que sont devenus Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Moïse et tous les autres jusqu'à aujourd'hui. Peut-être même que ceux qui disent qu'ils parlent de la part du Seigneur seraient des menteurs, tout simplement. Et dans cet extrait, il a été question des témoins oculaires. Sont-ils aussi dans ce complot de mensonges? Qu'est-ce que les prophètes ont écrit? L'ont-ils simplement inventé? Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des personnages d'époques différentes qui pourtant disent la même chose. Et dans quel but alors? Y aurait-il un quelconque mensonge? Et Jésus lui-même, qui se déclare être le Fils de Dieu, quelle crédibilité! L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, ne serait alors bon qu'à jeter à la poubelle. Ce serait un naufrage sur le plan théologique. Sur un plan personnel, s'il n'existe pas de résurrection, l'humanité demeure plongée dans les ténèbres du péché. Les croyants sont pareils aux non-croyants. Le salaire du péché qu'est la mort s'appliquerait avec dureté et sans pitié sur toute l'humanité. Si Christ n'est pas ressuscité, les croyants n'ont pas de pardon des péchés, pas de salut, qu'une réconciliation avec le Père. Pas de vie spirituelle fructueuse. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle une foi vaine, une foi inutile. Les croyants de tous les temps seraient à jamais perdus. L'apôtre Paul lui-même qui écrit cette lettre serait dans une sorte d'illusion. Que penser alors de ce récit de la transformation de Christ, la transfiguration, pendant lesquels nous voyons des disciples qui témoignent. Les croyants seraient alors les plus à plaindre. On assiste à une sorte de conclusion qui émane de cette supposition que vient de développer l'apôtre Paul. Sans résurrection, semble dire Paul, nous n'avons rien à présenter au monde. La foi en Christ n'a pas de proposition qui vaille la peine. La foi en Christ devient inintéressante pour tant que de sacrifices, que de souffrances, tant de peines pour un Christ mort. On serait là devant une farce tragique, dit John MacArthur. Et Paul conclut, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Heureusement, tout cela n'est pas, n'est-ce pas? Et nous plongeons nos regards dans la parole. Nous lisons les versets 20 à 28. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, ce sera la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu a dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été remis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. À l'entame de cette session, Paul indique de quelle résurrection Christ est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Puisque le texte nous indique qu'il précède ceux qui sont morts. Autrement dit, il inaugure un chemin nouveau, jamais emprunté précédemment. Paul répond ainsi à ceux qui doutent de la résurrection des morts. Tous ressusciteront des morts. Christ est les prémices de ceux qui sont morts dans la foi. Lorsque l'on parle des prémices dans l'Ancien Testament, cela veut dire que la moisson arrive. Les prémices représentent ce qui était amené au temple en attendant la récolte. Et les prémices sont semblables à ce qui vient. Tout comme Christ est ressuscité, de même, tous ceux qui croient en Christ ressusciteront. Et l'apôtre Paul profite pour faire une analogie. C'est par Adam que la mort est entrée dans l'humanité. Il nous présente ainsi deux types d'humanité, celle qui est touchée par la mort et celle qui connaît la vie par la grâce reçue en Christ. Cette dernière, bien qu'elle soit morte, est appelée à la résurrection. En effet, avec Adam, la condamnation est éternelle. Avec Christ, c'est la victoire sur le péché et la vie éternelle reçue dans la présence divine. La résurrection de Jésus n'est pas un événement inédit. Il y a déjà eu des résurrections avant celle de Christ. Vous vous souviendrez que Lazare a été ressuscité. Et la résurrection de Christ est différente. Parce que si Lazare est ressuscité, il est mort par la suite. Et tous ceux qui sont ressuscités sont morts après, sauf Jésus. Par conséquent, tous ceux qui meurent et tous ceux qui ressuscitent, comme il est dit dans le texte, ne sont pas tout à fait les mêmes. Le verset 23 le précise. Ceux qui appartiennent à Christ, lors de son retour, ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui ne sont pas à Christ ressusciteront pour le jugement et la mort loin de l'éternel. Tous meurent en Adam parce que la mort a touché l'humanité. Tous ressusciteront, mais certains pour le pardon des péchés et la vie éternelle, et d'autres pour la mort éternelle. Et l'apôtre Paul nous présente donc la résurrection des rachetés. La résurrection, elle se fera par séquence. En effet, il écrit, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Contrairement aux prémices qui étaient présentées dans le temple, en général la moisson suivait tout de suite. Christ est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Et ceux qui croient en Christ ressusciteront quand il reviendra. Ce moment reste de la connaissance de Dieu le Père seul. Mais nous sommes appelés, nous sommes invités à être prêts pour ce moment où il reviendra, pour ce moment où il viendra pour régner. Et c'est de ce règne dont parle l'apôtre Paul, versets 25 à 28. Il annonce la fin, c'est-à-dire la complétude de l'œuvre de Christ. Elle consiste à remettre le royaume à Dieu le Père, une façon de dire que la mission confiée est accomplie. Pour arriver à cette étape, des réalisations majeures sont attendues. La destruction de toute domination, toute autorité ou puissance. Ceci traduit en quelque sorte l'établissement du règne du Fils de l'homme. Le retour de Christ sur terre signifie l'aboutissement de la mission salvatrice. Présentement, il est au ciel et il défend la cause des siens. Et quand il revient, c'est pour combattre, c'est pour conquérir, c'est pour subjuguer, c'est pour juger définitivement ses ennemis. Et c'est la description qui est faite en Apocalypse 20. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le royaume que Christ remet à son Père est un lieu apaisé. Les personnes qui habitent ce lieu nouveau constituent le peuple racheté. Il s'agit d'un peuple nouveau qui ne peut plus être soumis à la corruption. C'est un peuple qui désormais vit pour l'éternité aux côtés de l'Éternel. Christ est arrivé au bout de sa mission. Il donne les clés au Père et reprend la place qui était la sienne comme fils. Christ continue de régner, comme il a toujours fait, dans la communion trinitaire, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En conclusion de ce texte, notre espérance est dans la résurrection de Christ. Cette résurrection de Christ met fin à toute supputation. Elle est authentifiée par les textes bibliques, comme nous l'avons vu, par la bouche des témoins de l'époque. Et on peut encore citer Matthieu 28, verset 10, lorsque Jésus s'adresse aux femmes en leur disant « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Nous sommes dans cette société où parfois on a peur d'être ridicule, de dire qu'on croit en Christ, on croit qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas de raison de se sentir ridicule. Au contraire, nous avons toutes les raisons dans ce texte de nous sentir fiers, parce que des preuves sont données, parce que nous avons de quoi tenir, nous avons de quoi répondre, ne serait-ce que répondre à nous-mêmes, dans ce monde qui va d'un vent à l'autre. Christ est le modèle. Par sa résurrection, il nous apporte la preuve que celui qui garde son enseignement, celui qui garde l'Évangile, ressuscitera aussi. Le retour de Jésus sur terre est une certitude. Il s'agit de s'y préparer. Même ceux qui sont morts il y a des millénaires ressusciteront pour régner avec lui dans son royaume. Ce n'est donc pas le moment de s'embarrasser, de chercher à vivre comme un hédoniste. On entend souvent cette phrase, il faut profiter. Il faut profiter. Peut-être faut-il être dans la présence du Seigneur. Travailler à rester dans cet enseignement reçu. Se donner sa vie pleinement à Christ. Et ne pas se laisser distraire par ce que nous avons vu ici dans cette parabole des terrains. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous perturbent concernant votre espérance, soyez rassurés. L'apôtre Paul veut rassurer les Corinthiens et il veut aussi nous rassurer. Dans ce point de doctrine, Christ est réellement ressuscité. Et Christ revient. Et parce qu'il revient, soyons prêts pour rentrer dans sa présence. Moïse disait à Israël, « J'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. » Y a-t-il encore des raisons de douter ? Que le Seigneur nous conduise. Amen. Nous voulons prier. Dieu notre Père, merci parce que ta parole est extraordinaire. Elle sait nous parler, elle sait nous convaincre lorsque le doute tant à s'immiscer lorsque des questions pernicieuses semblent venir, tu nous rassures. Merci encore, Seigneur, pour ton enseignement. Merci de nous donner de quoi tenir debout et de marcher en étant fiers de notre Seigneur, le Christ Jésus, mort et ressuscité, qui vit pour l'éternité. Amen.